Donc, Genèse chapitre 39. Et donc, c'est notre deuxième semaine avec Joseph, Genesis 29. Genèse 39. Et donc, nous avons vu la semaine dernière, juste pour rappeler, hein, parce que j'en ai perdu quelques-uns en cours de route. Mais c'est en fait quand Joseph a 17 ans. Et Dieu commence à lui parler. Donc Dieu peut parler aux adolescents, hein, il ne faut pas les mépriser. Et Dieu travaille avec Joseph. Et par le biais des songes, eh bien, il est en train de déjà le préparer, lui dire, j'ai quelque chose pour toi. Hein, j'ai un plan pour toi. Souvent, on est là, on critique un peu son comportement par rapport à ses frères, mais je pense que c'était un problème, non pas parce que lui s'est mal comporté, mais parce que eux n'étaient pas dans la même lignée. Eux n'avaient pas Dieu en premier dans leur cœur. Et j'ai pensé, pendant que je relisais ce chapitre, j'ai pensé à David, lorsque Dieu dit à Samuel, il lui dit, écoute, ça y est, j'ai rejeté Saül comme roi, il n'est plus, il ne m'écoute plus, il ne me suit plus, je l'ai rejeté. Mais il y a l'un des fils d'Isaïe qui est selon mon cœur. Et c'est comme ici, comme le chapitre 37 que nous avons vu la semaine dernière, c'est comme Dieu qui dit, j'ai vu un des fils de Jacob. Il y en a un qui vaut quelque chose. Parce que si on a sauté un chapitre, le chapitre 38, mais c'est un sombre chapitre, hein, c'est pas beau du tout, mais ça nous donne une idée de comment ça se passait avec les fils de Jacob. Hein, c'est le chapitre 38, ça commence par Judas s'éloigna de ses frères. Déjà, c'est mal parti. Et c'est vraiment ça le problème. Et vraiment, je dirais même que Dieu, justement parce que cette famille que Dieu a choisie, pour donner le sauveur que nous avons, eh bien, ça commençait à trop de contact avec le monde qui l'entoure. Et là, par exemple, on a une dizaine de garçons qui ne sont pas du tout attachés au Seigneur. Et Dieu va être obligé de les envoyer en Égypte, alors qu'ils n'aiment pas l'Égypte. Il avait dit à Abraham, ne descends pas en Égypte. Il a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Mais là, ils vont en Égypte et ils vont devenir esclaves justement pour qu'ils ne se mélangent pas avec le peuple égyptien, qui reste pur, qui reste isolé. On verra plus tard, hein, parce qu'ils sont des bergers, eh bien, ils sont considérés par les Égyptiens comme étant un peuple sale, c'est un sale boulot, comme on dit en français. Et donc, ils ne vont pas vouloir se mélanger. Mais c'est ça qui va préserver. Et pendant plus de 430 ans, eh bien, ils vont être préservés. Et ensuite, eh bien, quand l'Égypte voudra les tuer, eh bien, c'est là où Dieu va les sortir pour les emmener ailleurs. Donc Dieu a un plan. Même quand ça va mal, c'est le plan de Dieu qui se réalise. Et donc ici, dans le chapitre 39, eh bien, nous avons Joseph qui arrive en Égypte, mais en tant d'esclave, hein. Donc, il est entre les mains de ces Ismaélites qui ont envie de se faire un peu d'argent de lui. Et remarquez, et dans ce chapitre, trois fois, est-ce qu'on trouve, quatre fois, est-ce qu'on trouve écrit, l'Éternel fut avec Joseph, hein, fut avec lui. Versets 2 et 3, hein, vous avez l'Éternel était avec lui. Et puis dans les versets 21 et 22, l'Éternel était avec lui. Je crois que c'est ça, 21 et 22. Oui, et donc, mais en fait, ça se passe mal. Je vais commencer à lire, hein. Donc, verset 2, 39, verset 2, il dit, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors là, quand on dit Dieu est avec lui, Et tout va bien, c'est ça, nous on a envie de dire Dieu est avec moi aussi, hein. Quand tout va bien et quand les gens qui nous entourent nous trouvent sympathiques, ils nous trouvent très bien, ils nous aident, ils nous rendent service, eh bien là, on dit, ah, Dieu est avec nous, Dieu est en train de bénir. La question c'est, la réalité c'est que Dieu est avec lui tout le long du chapitre. Hein? C'est pas seulement là, Dieu est avec lui. Déjà, Joseph, apparemment en arrivant en Égypte, ça, c'est quand ses frères l'ont vendu, c'était un peu dur, hein, parce qu'il criait et tout ça. Hein. Mais j'imagine que pendant le trajet là, jusqu'en Égypte, il y a eu un travail dans son cœur. Et il s'est dit, mais Dieu, tu m'as donné des songes, tu m'as donné, ça peut pas être la fin. Tu as quelque chose. Et j'imagine qu'il est arrivé, quand il est arrivé en Égypte, il a cette conviction que Dieu a quelque chose. C'est pour ça que quand il, dès le chapitre 39, dès qu'il est vendu chez Potiphar, pour lui, eh bien, il donne, il travaille avec de tout son cœur. Alors qu'il est, humainement parlant, il n'a plus aucune chance d'aller retrouver ni son père, ni ses frères, ni rien du tout. Et il est loin. Souvent, on pense, ben, je ne suis pas en Canaan, donc Dieu n'est pas ici. Hein, c'était ça le sentiment de Jacob hein, quand il a quitté. Il était étonné dans le rêve que ah, Dieu est ici. Il a appelé l'endroit Bethel. Hein, donc, naturellement, il pouvait imaginer que Dieu n'est pas là. Il est au loin, Dieu l'a abandonné, Dieu ne l'a pas gardé, Dieu n'est. Il pourrait. Mais lui, quelque part, il y a quelque chose qui le rassure qu'il y a un but et que Dieu a un plan. Donc, il va travailler, il va mettre tout son cœur dedans et Dieu va bénir son travail parce qu'il le fait pour le Seigneur, parce qu'il le fait pour. Je ne sais pas si vous êtes arrêté pour regarder le verset 3. Il dit, son maître vit que l'Éternel avec lui. Ça ne dit pas qu'il a vu que la chance est de son côté, ou il a vu que bon, il doit avoir un Dieu qui est avec lui. Non, il sait que c'est l'Éternel qui est avec lui. Donc ça veut dire que Joseph a parlé de l'Éternel. Il lui a annoncé, il a dit, moi, mon Dieu, c'est l'Éternel. Et je vis pour lui, et je travaille pour lui, et c'est lui qui prend soin de moi. Il a dit, c'est comme Marie tout à l'heure qui disait, et au travail, on sait qu'elle est au Seigneur. Et on vient la voir. C'est un peu. Donc là, il s'est déclaré, il s'est annoncé qui il est. Et Potiphar, eh bien, ben, c'est très bien, puisque ça rapporte, donc bien sûr qu'il trouve ça très bien. Et il nous dit que verset 4, Joseph trouva grâce à ses yeux, et il l'établit sur toute sa maison, et il lui confie tout ce qu'il possédait. Voilà, un esclave qui vient d'arriver. Bon, j'imagine qu'il y a du temps qui est passé, mais, hein, pour lui donner le temps de se constater quand même. Mais là, Potiphar lui fait pleine confiance. C'est-à-dire sa vie, son témoignage, et tout, inspire confiance. C'est un défi pour nous aussi. Hein. Lorsque nous sommes en train de travailler dans le monde, avec un monde païen, c'est pas seulement à l'église qu'on vit la foi, c'est partout. Hein, c'est devant les voisins, devant les collègues, devant le travail, on vit. Et ils ont besoin de voir, même s'ils ne sont pas croyants, ils ont besoin de voir qu'au moins que Dieu est avec nous. Hein. Et il nous dit, l'Éternel, et c'est intéressant aussi, hein, et ça nous encourage, l'Éternel bénit, verset 5, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. C'est-à-dire que, même si je suis le seul chrétien dans ma famille, elle a des grâces particulières parce que je suis là. Si je suis le seul chrétien à mon travail, quelque part, c'est mieux pour eux que je sois là, parce que le Seigneur va bénir. Quand je suis les quelques chrétiens qu'il y a en France, heureusement pour la France, qu'il y a quand même quelques chrétiens encore. Hein? Donc, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, tout ce qui était entrepris par Potiphar, tout ce qu'il possédait, eh bien, tout était sous la bénédiction de Dieu à cause de Joseph, et Joseph était le gérant de tout cela. Verset 6, tellement c'est complet, là, Moïse, quand il écrit cela, eh bien, vraiment, il insiste dessus. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Il était un peu comme Alain à la retraite. Il n'y a plus de soucis. Il vient à la maison, il met les pieds sous la table et il mange. C'est. Il dit non, c'est pas ça. Mais le Potiphar, eh bien maintenant, c'est un chef, c'est un patron, il n'a rien à faire, il se promène et tout se passe bien. Et quand on lit jusque-là, on dit, oh, Dieu est avec lui. C'est ça qu'on appelle être Dieu avec nous. Et c'est ça qu'on y est, on rêve, on imagine, on veut, on croit que c'est, faut que ça soit comme ça. Mais à partir du verset 7, les choses vont autrement. Mais nous devons dire, mais l'Éternel est toujours avec lui. En tous les cas, Joseph l'a cru. Parce que, justement, et c'est une situation difficile, c'est une épreuve difficile. Parce que maintenant, hein, vous savez, beaucoup des péchés sont commis lorsque on est en présence de quelqu'un qui a une pleine confiance. C'est. Quand on est en présence de quelqu'un qui a pleine confiance en nous, c'est là où nous sommes tentés de pécher. Parce que personne ne se pose des questions, personne ne doute. C'est là où se passent les abus sexuels, c'est là où se passent les l'inceste, c'est là où se passent les vols au travail, tout ça. Bon, il a pleine confiance en moi, il va rien voir, il ne va pas poser de questions. C'est une situation dangereuse. Et nous devons faire très attention. Quand il y a confiance, eh bien, les risques sont grands. Quand il y a pleine confiance. Et là, bien sûr que on a vu à la fin du verset, on ne l'a pas vu, mais à la fin du verset 6, il y a une petite phrase là qui dit, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc il est là, 17 ans, peut-être il y a du temps qui est passé, il arrive vers 19, 20 ans, et c'est la fleur de l'âge. Et la femme de Potiphar est attirée. Et c'est pas Joseph qui s'approche, c'est pas Joseph, c'est elle qui vient vers lui. Mais Joseph, et ce qui importe, c'est que, bon, il y en a quelques détails juste pour nous montrer combien la tentation est forte et pourrait être forte. Et comment Joseph peut dire, mais il n'y a personne qui voit. Dieu n'est pas là, la famille n'est pas là, il n'y a personne qui voit, on est au loin, personne ne va parler. Pourquoi me préserver pur? Et même au verset 9, on voit comment lui voit la chose. Alors qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a pas un autre chrétien pour parler de lui, personne pour informer ses parents, personne ne sait où il est. Et il dit à la femme de Potiphar, il dit, écoute, ce n'est pas une question de toi ou pas toi, c'est une question comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il dit, je ne peux pas, Dieu a un projet pour moi, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu veut faire quelque chose de moi. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais Dieu veut faire quelque chose de moi. Et moi, il faut que je me garde pur. Il faut que je reste pur. Et c'est déjà ce que tu demandes. C'est un grand mal. Et en plus, c'est une offense contre Dieu. Même s'il n'y a personne pour le dire, même s'il n'y a personne pour le voir, je viens de perdre tout le monde. C'est. En tous les cas, et donc la question c'est comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quelque part, il a cette conviction que Dieu a quelque chose pour lui, et c'est pas une question de ce que pense la femme de Potiphar, et si elle le fait, elle sait quel risque elle est en train de prendre, c'est elle qui prend l'initiative, elle sait comment faire les choses, elle connaît son mari. Certainement que ça aurait pu se passer sans créer de scandale. mais sachant aussi que, comme dit Moïse dans les Nombres 23-32, il dit, sachez que votre péché vous atteindra. Il y a un moment, éventuellement, se fait attraper. Tout le monde se fait attraper. Et après, on n'a que les yeux pour pleurer, mais ça ne change rien. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal contre Dieu? Et puis la question, c'est que ce n'est pas seulement une fois, mais verset 10, il nous dit, elle parla tous les jours à Joseph. Tous les jours, ça dure, on ne sait pas combien de temps, mais rien qu'en lisant ça tous les jours, on a l'impression que quand même ça dure. Et puis un jour, verset 11, c'est l'opportunité pour la femme de Potiphar, parce que la maison est vide, il n'y a personne dans la maison. Et donc, elle essaie de profiter, elle est sûre qu'il ne va pas refuser, maintenant qu'il n'y a personne dans la maison, personne ne saura, tout est là. Vous savez, ça me fait penser à Proverbe 7, où il parle du jeune homme qui descend et qui va vers l'étrangère. Et puis c'est le soir, il n'y a personne dans la rue, et puis il s'approche, et puis après elle sort, et puis et tout. Et la tentation est grande, et dit, et puis mon mari, il ne va pas revenir, viens, 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 viens. Et le jeune homme, il part comme un mouton à la boucherie, à l'abattoir. La situation, les circonstances sont telles que c'est ce qui pourra arriver. Et là, elle l'attrape et elle, c'est la femme, c'est la patronne, hein, c'est la patronne de la maison. Et elle, elle le prend. Et elle, c'est l'Internet qui a coupé. Et donc, c'est la patronne. Et s'il dit non, qu'est-ce que ça peut créer? Moi, déjà, je ne connais personne. Où est-ce que je vais aller? On va me vendre à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux. C'est vraiment la situation. Il peut se poser, justifier. Il peut dire, mais bon, c'est. Ça va me créer des problèmes. Écoutez, je vais. Bon, on va essayer d'arranger les choses. Dieu comprend. Je fais ce que je peux. On peut discuter longtemps. Et on arrive à se convaincre de beaucoup de choses. Mais là, pour Joseph, pas question. Hein, c'est. Non, non. Il dit. Et il s'enfuit. Il s'enfuit. Mais il laisse son manteau, sa veste derrière, il laisse son manteau, son vêtement près d'elle. Et elle va se servir de cela comme une preuve contre lui. Ce sera la deuxième fois dans sa vie qu'on se sert de son manteau pour dire des mensonges sur lui. Déjà, il y a son manteau de plusieurs couleurs que les frères vont prendre, ils vont mettre du sang et vont faire croire au père qu'il a été attaqué. Et pour faire croire. Et là, encore une fois, elle prend son vêtement et elle va s'en servir pour raconter des mensonges sur lui. Et comment dire après l'Éternel est avec lui, hein? Nous, on pourrait dire humainement parlant, on dit, mais le pauvre, il n'a pas de chance. Lui, il essaie de bien faire. Et tout va mal. C'est ça la difficulté. Mais lui, il reste fidèle. Bon, elle va tourner la chose, elle va crier, dire, oh, voilà, c'est hébreu, c'est esclave hébreu, il est venu dans la maison, voilà, il a essayé de ceci, cela. Après, elle va dire au mari. Et le mari, est, bien sûr, il va se mettre. En colère, hein, verset 19, en entendant ce qui arrive, un, certainement vu l'acte, hein, ou la tentative, et deuxièmement, il est déçu, il a fait confiance, et il est terriblement déçu. Et puis après, après réflexion, il se dit, mais après, comment je vais faire? Si je me débarrasse de lui, comment je vais faire? Hein, ça va être comme avant. Il peut penser. Mais alors, il est en colère parce que les choses. Hein, en général, on se met en colère parce que les choses vont mal. Déjà, on a été blessé, on est vexé, et les choses vont aller mal. Hein, et ça met en colère. Et donc, Potiphar le met en prison. Certains ont posé la question, ils ont dit, mais pourquoi il ne l'a pas tué? Hein, parce que c'était quand même quelqu'un qui avait un rang élevé, hein, dans le royaume. Et pourquoi il ne l'a pas tué? Peut-être qu'il n'a pas cru. Hein, mais bon, comme il ne pouvait pas mettre sa femme en doute, et comme il a quand même, pour sauver la face, il l'a mis en prison. On ne sait rien, ça c'est sûr, on devine là seulement. Mais il se retrouve en prison. Voilà, voilà, voilà. J'essaie d'honorer Dieu, j'essaie de résister, et bien voilà ce qui m'arrive. Je connais beaucoup de chrétiens qui, pour moins que ça, ils baissent les bras et puis ils disent laisse tomber, ils claquent la porte et ça suffit. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? En prison. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Hein? Et puis surtout quand il pense à songe. Hein, c'est mes frères vont jamais venir ici en prison pour se prosterner. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Mettez-vous à sa place toutes les questions qu'on peut avoir. Il y a une chose que je veux souligner quand même, et je veux faire un peu marche arrière là, c'est que c'est la femme de Potiphar, peut-être que elle, dans sa tête, elle se croyait amoureuse de Joseph. Elle l'a vu. Est tombée amoureuse. Mais cet amour, lorsque elle n'a pas ce qu'elle veut, ça se transforme en haine et elle cherche à le détruire. Ça me fait penser à l'un des fils de David avec Tamar. Hein, il était fou amoureux d'elle. Et puis après l'avoir souillé, eh bien, il en haine. Hein, il ne veut plus d'elle. Hein, ça, c'est l'amour du monde. Hein, c'est l'amour charnel. C'est l'amour passionnel. C'est l'amour. Ça, cet amour-là, il dure pas. Il est là tant que ça va dans son sens. Et quand ça va pas dans son sens, c'est le contraire. Tandis que l'amour de Dieu, eh bien, c'est un amour que, quoi qu'il arrive, ça continue. Hein? C'est différent. Quand on a l'amour charnel, eh ben, ça peut se transformer en haine. Hein? La limite entre l'amour charnel et la haine, c'est très peu de différence. Hein? Ça se transforme très vite en haine. Tandis que l'amour de Dieu, hein, c'est l'amour qui est le fruit d'esprit que Dieu produit en nous. Eh bien, peu importe ce que quelqu'un fait, on l'aime quand même. Hein, c'est ça la différence. Et on ne peut pas. Et donc, très vite, on se rend compte. Hein, et si vous avez une situation où vous croyez que vous étiez aimé, et puis tout d'un coup, ça se transforme en haine, eh bien, vous dites, ah, ben, c'était jamais de l'amour. C'est tout. Parce que quand c'est l'amour de Dieu, ça continue. C'est pour ça que nous, on est rassurés dans l'amour de Dieu. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même notre péché n'empêche, ne va pas changer l'amour de Dieu. Hein, quand on a affaire avec l'amour de Dieu, c'est toujours là. Hein, et il est toujours prêt à pardonner. Donc, méfions-nous de cet amour charnel qui est là, et on soit fou amoureux, puis après, combien de gens sont mariés, et puis 2 ans après, moi je l'aime plus. Et tout ça, c'est parce que c'était jamais de l'amour réel. Hein. C'est peut-être tout ce que le monde a, et ils font comme ils peuvent avec ça, mais ils ont beaucoup de problèmes. Mais pour un enfant de Dieu, eh bien, c'est l'amour de Dieu qui doit être en nous. Hein, Jésus a dit de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Je continue au verset 26 et 21. Donc, il dit, l'Éternel fut avec Joseph alors qu'il est en prison. Je dis, tu es avec moi et je suis en prison. Il dit oui. Hein, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu se sert de ces épreuves pour former son homme, parce que quand même, il va avoir une grosse tâche après. Hein, il va être le numéro 2 d'Égypte. Et c'est pas, on ne peut pas être un petit frère du Canaan et devenir le numéro 2 de l'Égypte, comme ça. Il y a un travail à faire parce que Dieu a un travail à faire et il va le préserver. Donc là, eh bien, l'Éternel est avec lui et il étendit sur lui sa bonté. Il dit, c'est comme ça que tu montres ta bonté. Tu mets en prison, à la prison du roi où on ne sort que mort. Hein, c'est dans une caisse qu'on sort. Mais il a la faveur du chef de la prison. Très vite, c'est là la bonté de Dieu, c'est sa manière d'influencer ceux qui ont affaire avec nous. Il y a l'épreuve, mais après Dieu peut contrôler, il a une influence sur ceux qui sont là, qui encadrent l'épreuve. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, on voit très vite, c'est très court. La suite continuera en verset 40, mais très vite, eh bien, il lui confie tout. Vous vous rendez compte, un esclave arrive, il est jeté en prison parce qu'il a essayé de tromper, soi-disant, tromper la femme du maître, et là, il le met en charge de la prison, et la prison du roi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas bien, et on perd la tête. Hein, mais il y a une confiance. Dieu. Donne au chef de la prison la confiance. Et peut-être que Potiphar, quand il se rend compte de ce qui s'est vraiment passé, peut-être que lui aussi, il avait un peu parlé, mais il nous dit que c'est l'Éternel. Hein, il compte sur l'Éternel et pas sur son CV, hein, chez Potiphar. Donc, sachons que si notre vie est entre les mains de Dieu, Dieu prend soin. Même quand ça va mal, Dieu est avec nous, l'Éternel est avec nous. Hein? Et sa bonté est toujours là. C'est seulement, ça ne se passe pas toujours comme nous, on voudrait. Mais on aimerait tous avoir la fin de Joseph, mais pas toujours le trajet de Joseph. Hein? Que le Seigneur nous aide à avoir pleine confiance dans le Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes... reconnaissant à toi pour ce que tu as, ce que tu nous enseignes. Et comme tu disais l'apôtre Paul en Corinthiens, il dit ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Et Seigneur, donne-nous d'avoir ce sentiment de pureté, désir d'être pur comme Joseph l'avait, afin d'être un vase d'honneur, un vase pur pour te servir. Comme Paul disait à Timothée. Et Seigneur, que nous puissions aussi, quels que soient les événements qui puissent arriver, eh bien, qu'il puisse avoir confiance en toi, que tu avais un plan pour sa vie, même s'il n'arrivait pas à deviner quel était ton plan. Et Seigneur, donne-nous d'avoir cette confiance en toi. Père, merci pour cette opportunité de relire ces versets et d'être rassuré. Et d'être encouragé, et Seigneur, même de prendre exemple sur Joseph. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.